Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et tous sur Fréquence 7 en cette nouvelle année 2025 que je vous souhaite la meilleure possible. Bonjour Sylvain et meilleurs voeux.
Bonjour, merci.
Merci à Eulalie d'être présente, étudiante à Montpellier, d'être présente autour de cette table pour échanger sur un sujet très particulier dont on va parler dans quelques minutes. Et je voudrais profiter de l'antenne pour souhaiter un bon rétablissement à Claude qui, hélas, n'est pas parmi nous aujourd'hui parce que Chloé est au lit. Claude, si tu nous écoutes, hein, bon rétablissement à toi. Bonjour Daniel, bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bien, alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, pour commencer cette année, on a décidé d'élaborer une rétrospective des événements politiques de l'année 2024. Parce qu'en effet, entre des élections européennes perdues par la coalition présidentielle, qui est, rappelons-le, hein, arrivée en troisième position, entre la dissolution surprise de l'Assemblée nationale dans la foulée, la succession de quatre chefs de gouvernement différents à Matignon, et la première motion de censure renversant un exécutif depuis 1962, la France a en effet connu une année 2024 riche en rebondissements politiques. Mais de manière générale, c'est sur fond de crise de confiance en la politique de Macron que l'année 2024 s'est achevée. Et c'est donc là-dessus qu'on va discuter, puisque les Français n'ont pas été épargnés dans leur vie quotidienne, baisse du pouvoir d'achat, difficultés toujours croissantes d'accès aux soins, conditions de travail dégradées, etc., etc. Alors du coup, comment est-il possible de ne pas exprimer une défiance vis-à-vis du pouvoir macroniste, qui tend d'ailleurs à virer à l'autoritarisme? Alors Daniel, on peut dire que cette année politique est marquée par la décomposition du macronisme?
On peut le dire. On va récapituler. Donc, janvier 2004, le président de la République veut relancer son deuxième quinquennat. Macron promet lors de ses vœux un nouveau cap. À sa demande, le 8 janvier, Elisabeth Borne lui remet sa démission et Gabriel Attal, lui succède. Il devient à 34 ans le plus jeune locataire de Matignon de la 5e République, avec un objectif: réarmer notre pays. Pendant ce temps, les grands axes routiers de l'Hexagone sont bloqués par de nombreux agriculteurs en colère, parce que depuis deux semaines, ils se mobilisent là de ne pouvoir vivre de leur travail. Le soutien des Français à leur cause est immense. Le 23 février, le président de la République sera lui-même confronté à cette colère au salon de l'agriculture. Sur son passage, les insultes volent au point de compromettre la traditionnelle déambulation du chef de l'État.
Mais quelques jours plus tard, une éclaircie. Des parlementaires rappellent leur attachement de la France à l'état de droit en faisant reconnaître une liberté fondamentale dans sa constitution.
Alors le 4 mars, la France devient le premier pays à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'avortement. Réunis en congrès à Versailles, 780 parlementaires ont voté pour, 72 contre. Plus de la moitié des votes contre, 42, sont issus des rangs du Rassemblement national. La loi a été promulguée le 8 mars.
Et la campagne des élections européennes se fait sur fond de guerre à Gaza.
Alors, en mai, effectivement, la campagne des élections européennes démarre. L'extrême droite fait largement la course en tête. Et au même moment, la guerre de Gaza a des effets sur la campagne. La France insoumise, qui a fait de la question du risque de génocide un des axes de sa campagne, subit un procès éhonté en antisémitisme. Les étudiants de la France entière, de Sciences Po aux universités, se mobilisent contre le génocide en cours. Deux semaines plus tard, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie devient le théâtre de nouvelles tensions. Après le vote des députés d'un dégel du corps électoral, des émeutes éclatent. Plusieurs morts sont à déplorer et l'état d'urgence est décrété par la présidence. À la colère populaire, l'État répond par la répression. 7 indépendantistes sont interpellés et transférés en métropole. une déportation politique, dénonce alors l'Union calédonienne. C'est dans ce contexte brûlant que les Français de métropole et d'outre-mer se rendent aux urnes pour élire leurs députés européens. Sans surprise, le RN écrase la concurrence avec plus de 7 millions de voix, le double de la candidate macroniste Valérie Ayer.
Et donc du coup, une dissolution surprise de l'Assemblée nationale proclamée le soir des résultats des élections européennes.
Macron n'accepte pas sa défaite cuisante aux européennes. Il proclame la dissolution de l'Assemblée nationale et annonce de nouvelles élections législatives. Macron fait une lecture présidentialiste de la Constitution. L'article 12 suppose une consultation préalable des deux chambres avant de dissoudre l'Assemblée, ce qu'il n'a bien sûr pas fait. S'ensuit 3 semaines de campagne. Il espérait profiter de l'émiettement de la gauche pour incarner seul le Front républicain face au RN. Raté. Dès le lendemain de la dissolution, communistes, socialistes, écologistes et insoumis constituent le nouveau Front populaire, NFP, et 3 jours plus tard, ils annoncent un programme commun.
Et du coup, la vague brune est endiguée par le nouveau Front populaire.
Dans l'entre-deux-tours, effectivement, un barrage républicain s'organise de la gauche à la Macronie pour empêcher le Rassemblement national et ses alliés d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Résultat, à contrario des 27 sondages annonçant la victoire du RN, c'est le NFP qui arrive en tête du scrutin et obtient 182 sièges, auxquels s'ajoutent 13 divers gauches, 195 sièges donc, une majorité relative. Légitimement, la gauche revendique le droit de gouverner. Macron, pour mieux repousser une cohabitation, déclare une inédite trêve olympique et politique à partir du 23 juillet. Ce même jour, après plusieurs semaines de négociations, le nouveau Front populaire annonce le nom de sa candidate pour Matignon, Lucie Castet, 37 ans, haute fonctionnaire et porte-parole du collectif Nos services publics.
Mais moment historique, la gauche, pourtant arrivée en tête aux élections législatives, est interdite de gouverner. Et Michel Barnier, issu de LR, et il faut le rappeler, hein, c'est une formation politique qui compose 4,7% des députés à l'Assemblée nationale, est nommé Premier ministre, mais sera censuré.
Oui, effectivement, malgré le score de la gauche, le chef de l'État refuse de nommer leur candidate. Redoutant de voir l'action de son champ détricotée, certainement, à commencer par l'impopulaire réforme des retraites.
Oui, et je voudrais revenir d'ailleurs sur un point là, concernant le manque de respect de la tradition, concernant la nomination du Premier ministre, puisque bah, en effet, même si ce n'est pas une obligation, lorsque le président de la République n'obtient pas la majorité à l'Assemblée, il est de tradition qu'il nomme un Premier ministre issu de la majorité élue. C'est ce qu'on appelle justement la cohabitation. Et ce phénomène a existé quand même 2 fois sous la Ve République, puisqu'il y a eu 2 cohabitations sous François Mitterrand et 1 sous Jacques Chirac. Et donc, à chaque fois, le président tirait les conséquences d'une majorité nouvelle à l'Assemblée qui n'était pas de sa couleur politique. Et entre autres, on peut aussi quand même interroger la question d'un déni de démocratie, puisque ne pas respecter le résultat des urnes, c'est quand même faire une entorse à la démocratie dont la souveraineté revient, par définition, au peuple.
Effectivement. Le 5 septembre, donc, Michel Barnier, ancien commissaire européen, est désigné Premier ministre. Alors, pour éviter une censure, Barnier va donner sans cesse des gages au RN. Pendant ce temps à l'Assemblée, les députés du nouveau Front populaire réussissent à faire voter à la majorité plus de 58 milliards de recettes en mettant à contribution les très riches, en baissant le montant du CICE, du crédit d'impôt recherche, etc. Donc ces recettes auraient pu éviter les nouvelles énormes ponctions, 60 milliards prévues de ponctions par le gouvernement, notamment sur les services publics, et auraient pu permettre de faire passer le déficit du pays au-dessous des 3%. Mais impossible pour la Macronie d'accepter la démocratie. Pas question de faire contribuer les plus riches. Barnier utilise alors le 49-3, pour annuler l'ensemble des votes des députés. Après ce déni de démocratie, les Insoumis annoncent une censure du gouvernement qui sera votée le 4 décembre par le NFP et le RN. Le 4 décembre, le gouvernement est donc renversé.
Et oui, et à partir de là, des critiques vont être établies justement à propos de la motion de censure, dont on a dit qu'elle était source d'instabilité. Et donc on a reproché à la gauche en particulier qu'ils sont la cause du chaos dans le pays. On a souvent entendu ce terme-là. Or, ces motions ont été déposées le lundi 2 décembre à la suite donc, du déclenchement par le Premier ministre de l'article 49.3 de la Constitution, pour faire adopter le budget 2025 de la Sécurité sociale. Et c'est la première fois qu'une motion de censure a été adoptée sous la Ve République après le déclenchement de l'article 49.3. Alors, après cet épisode, on pourrait penser que Emmanuel Macron respectera la tradition dans la nouvelle nomination du remplacement de Michel Barnier. Mais non, il continue de s'obstiner.
Eh oui. Tandis que les appels à sa démission se font pressants, Macron s'entête et refuse toujours de nommer Lucie Castet. Après les prétendus échanges avec les formations politiques, hormis la FI qui refuse de s'y rendre, Macron fait de François Bayrou, président du micro-parti Modem, le successeur de Michel Barnier. Les premiers choix de Bayrou en Premier ministre détonnent. Plutôt que d'aller à Mayotte, gravement sinistré par le passage du cyclone Chido, Mayotte qui ne se situe pas sur le territoire national, d'ailleurs, il choisit de se rendre en jet au conseil municipal de Pau, dont il reste le maire, un cumul de mandats qu'il revendique. Par ailleurs, la composition annoncée de son gouvernement choque, en particulier la présence de revenants macronistes censés donner l'illusion d'une ouverture à gauche, Manuel Valls aux Outre-mer, François Rebsamen à l'aménagement du territoire, etc.
Merci Daniel. Et comme tu viens de le dire, François Bayrou a donc été nommé Premier ministre. Il a composé son gouvernement le 21 décembre. Alors, puisque Claude est malade, elle a quand même élaboré un petit aperçu du gouvernement de Bayrou.
Tout à fait. Macron ne dispose d'aucune base solide et cohérente à l'Assemblée nationale, et pourtant il persiste à gouverner contre le peuple avec mépris. Où est la démocratie ?
On se le demande. Un petit mot sur le nouveau gouvernement ?
Eh oui, le gouvernement est un conglomérat de mercenaires politiques qui ne partagent que leurs engagements au service des classes dominantes. Ils sont prêts à tout, les déshonneurs et les trahisons pour conserver le pouvoir. Un petit aperçu du gouvernement ? Les nommés sont Bayrou, jugé en appel pour détournement de fonds. Rachida Dati, procès requis pour corruption et trafic d'influence au Parlement européen. Aurore Berger, justice saisie pour faux témoignage en commission à l'Assemblée nationale pour l'affaire des crèches. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, condamné pour financement irrégulier en Espagne. Véronique Louwagie, condamné pour licenciement abusif de sa femme de ménage. Philippe Tabarot, enquête du PNF autour d'un emploi fictif et grosse somme en jeu. Laurent Mercangeli, accusé de fraude pour des élections, condamné par la Cour des comptes. Marc Ferracci, accusé de conflit d'intérêts. C'est plus un gouvernement à ce rythme-là, je crois que ça devient une vraie mafia.
Allez, une petite douceur pour la route ?
Oui, l'administration fiscale a renoncé à poursuivre Bernard Arnault pour évasion fiscale. Décision prise en janvier 2024. Et en décembre, Monsieur Pépère s'est offert une villa à Cannes pour la modique somme de 50 millions d'euros. Et au même moment, à Mayotte, quand tu n'as presque rien, mais que tu arrives à tout perdre quand même. Mayotte à terre oubliée, voit défiler des guignols à son chevet qui repartent, laissant des promesses non tenues. La réponse de Retailleau au problème ? Eh bien, un couvre-feu. À quand une politique sociale juste pour les Outre-mer, qui sont quand même, je le rappelle, des départements français.
Justement, social. Depuis le 1er janvier 2025, les bénéficiaires du RSA sont inscrits à France Travail et sont tenus d'effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire.
Et pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la réforme du RSA, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, porte atteinte aux droits humains. L'année 2025 sera l'année de tous les dangers, mais aussi de tous les espoirs. Tout dépend de nous.
Depuis l'Olympe, Jupiter nous parle.
Chers auditeurs de Fréquence 7, bonjour. Je voulais revenir sur les vœux du président de la République. Des vœux prononcés avec hypocrisie. Il commence en disant « Nous avons fait avancer l'égalité femmes-hommes, entre autres grâce au courage de celles qui ont su dénoncer. » Très bien, mais rappelons qu'au ministère de la Justice, il y a quelqu'un qui est accusé de viol. On continue, il nous dit « Si j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est pour vous redonner la parole. » Eh bien, le 7 juillet, nous nous sommes exprimés pour dire stop à sa politique et à son gouvernement. Mais il n'a pas voulu nous écouter. Alors il s'agirait d'aller faire un tour chez l'otorino, monsieur Macron, et de songer à des appareils auditifs, pour entendre un petit peu les Français, je crois. Allez, on continue. Et la France, par sa puissance diplomatique et militaire, à cet égard, a toujours un rôle à jouer. Eh bien, si elle a un rôle à jouer, monsieur Macron, reconnaissez l'État de Palestine et exigez le cessez-le-feu immédiat. Enfin, j'ai repéré celle-là. Je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens de brosser devant vous. Très souvent, il nous promet des référendums, des consultations citoyennes. D'ailleurs, en 2019, il a même laissé s'organiser une convention citoyenne pour le climat, constituée de 150 personnes tirées au sort, et dont l'objectif était de proposer pour réduire d'au moins 40% les émissions des gaz à effet de serre, dans une logique de justice sociale. Les personnes ont travaillé dur et ont établi 149 propositions. À ce moment-là, il avait déclaré avant le lancement de cette convention. « Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. » Or, selon le Média Reporter, seuls 10% des propositions ont été retranscrites. Monsieur Macron, comment peut-on encore vous croire? Ce que vous dites est sans doute encore du baratin. Alors Monsieur Macron, je crois que cette année 2025, c'est vous et votre gouvernement qui allez vous faire brosser. Nous continuerons à nous battre contre toutes les injustices et pour nos droits, conformément à l'esprit de la grande Louise Michel qui a écrit « Notre plus grande erreur fut de ne pas avoir planté le pieu dans le vampire, la finance. »
Merci Vincent. Tu as rappelé un point important. Cette expérience démocratique qui était la Convention citoyenne pour le climat a été en effet foulée aux pieds puisque 90% des propositions pourtant écologiques et justes ont été abandonnées. Il semble que le pouvoir s'est complètement détourné de cette question cruciale du dérèglement climatique dont les conséquences toujours plus désastreuses touchent d'abord les populations les plus précaires. Alors Eulalie, bonjour d'abord. C'est justement sur cette impasse écologique et sociale que tu veux revenir, et à plus forte raison, suite au passage meurtrier du cyclone Chido à Mayotte le 9 décembre dernier. Eulalie, tu es étudiante en deuxième année de licence de géographie et aménagement, avec deux matières de spécialité, milieu naturel et hydrosystème. Quelles sont les raisons qui t'ont poussée à t'exprimer sur cet événement ?
Alors j'ai choisi de m'exprimer sur ce qui s'est passé à Mayotte, car c'est un événement marquant. En effet, c'est le cyclone le plus fort qu'ait connu Mayotte jusqu'à présent. Et c'est un sujet qui est d'actualité vu que la catastrophe s'est passée il n'y a même pas un mois. Il y a également beaucoup de choses à dire sur le plan politique. C'est ce que l'on va développer par la suite. Enfin, comme l'a rappelé Florence, c'est un thème que l'on aborde beaucoup dans le cadre de mes études. Donc je vais essayer de vous en parler le plus justement possible.
Alors justement, qu'est-ce que tu peux dire sur le plan écologique et politique ?
Alors tout d'abord, je pense qu'il faut parler du plan politique en premier. L'abandon et l'inaction politique du gouvernement français à Mayotte est vraiment le facteur aggravant dans cette situation. Les dégâts matériaux, humains et sociaux ont été aggravés par cet abandon et le mépris de l'État. De plus, comme l'a relevé le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans leur dernier rapport avant la catastrophe, le pouvoir colonialiste exercé par les « grandes puissances », que je mets entre guillemets, exacerbe les inégalités et donc la vulnérabilité des populations face aux risques climatiques. C'est le cas ici des Maorés, qui sont marginalisés et méprisés, et où les actions mises en place par le gouvernement sont insuffisantes par rapport à l'ampleur des dégâts, inadaptées et trop lentes. Pour comprendre le décalage qu'il y a entre Mayotte et les autres départements en France hexagonale, on peut imaginer une catastrophe de cette taille en Île-de-France, par exemple. Les réponses auraient été beaucoup plus rapides et adaptées, et le traitement médiatique aussi très différent. Un exemple de méconnaissance du territoire mahorais et d'inadaptation lors de cette crise est l'alerte qui a été faite pour annoncer l'arrivée de Chido. Elle a été transmise en français, alors qu'une grande partie de la population ne parle pas français car est issue de l'immigration. C'est cette même population-là qui est la plus vulnérable car la plus pauvre et qui vit par conséquent en majorité dans les bidonvilles, là où il y a eu le plus de victimes. De plus, le mépris à l'égard des habitants de Mayotte de la part des hommes politiques français est sidérant. Quand on entend M. Macron, en post-crise, dire sans aucune gêne « parce que vous êtes content d'être en France, parce que si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde », c'est vraiment le mépris colonial incarné. Maintenant, d'un point de vue écologique, ce sont des événements qui sont amenés à se reproduire et qui se sont déjà produits par avant. En effet, les cyclones de cette intensité-là sont des événements assez rares. Le dernier en date à Mayotte a été date de 1934. Concernant le dérèglement climatique actuel, les experts ont beaucoup d'incertitudes concernant leur évolution. Certains avancent que les épisodes de ce type seront de plus en plus forts en intensité, mais aucun schéma de projection n'est sûr sur ce thème-là. En 2017, un cyclone équivalent, Irma, avait fait énormément de dégâts dans les Caraïbes. Seulement, il y a des grosses différences dans les réponses apportées en fonction des territoires touchés. En effet, Mayotte est le territoire le plus pauvre de France, donc les moyens ne sont pas mis pour la prévention et l'adaptation face aux risques naturels, car n'est pas considéré comme une priorité. En revanche, Irma a touché Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux territoires où la population est bien plus aisée, avec de nombreuses résidences secondaires notamment, de luxe. Les documents, les données disponibles sur ces territoires ainsi que les plans de prévention sont beaucoup plus riches et nombreux. Et la population est bien informée, elle est sensibilisée aux risques présents là où ils habitent. Il y a donc des inégalités très fortes entre les territoires touchés. Un fonctionnaire ayant requis l'anonymat déclare ainsi à Mediapart « Si on compare avec Irma, on constate que l'aide mobilisée est très différente selon qu'il faut sauver des riches ou des pauvres. » En effet, reconstruire Mayotte est envisageable, à condition d'y mettre les moyens financiers. La priorité est de reloger les habitants dans des installations correctes, et donc de réduire l'habitat insalubre qui représentait du coup un tiers des installations. Mais au vu de comment l'État néglige ce département depuis des décennies, cela pose question. On peut conclure en rappelant les propos hors sol tenus par les hommes politiques français à Mayotte au lendemain de la catastrophe. Parler de réguler l'immigration face à la population qui attend de vraies mesures et mises en place pour survivre, c'est vraiment ne pas avoir le sens des priorités et être à côté de la plaque.
Un énorme merci à toi, Eulalie. Tu as vraiment et très clairement montré l'arrogance et l'inaction politique de nos gouvernements. Alors que des plans de prévention et d'aide existent, mais ils sont inégalement engagés. Et du coup, tu as pointé du doigt quelque chose d'une importance fondamentale. On sait donc, et il faut vraiment insister là-dessus, on sait donc que le dérèglement climatique a déjà commencé, qu'il est irréversible, qu'il a des conséquences qui détruisent et qui vont encore détruire toujours plus des vies. Et on a des solutions. Et pourtant, le thermomètre grimpe, grimpe, continue de grimper sans que les États n'infléchissent leur politique climatique. Alors Daniel, le mot de la fin, cynisme ou incurie des dirigeants politiques ?
Alors plus qu'une menace, le thermomètre, la montée du thermomètre, symbolise l'incurie des dirigeants quant à contenir le réchauffement planétaire au niveau des 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. La limite la plus ambitieuse fixée par l'accord de Paris de 2015 s'est évaporée cette année. Peut-être qu'on met le cap sur plus de degrés, c'est possible. Les températures moyennes mondiales cet été, juin, juillet et août, ont été les plus élevées jamais mesurées, selon l'observatoire européen Copernicus. Et le mois de novembre, le deuxième le plus chaud dans le monde, 1,62 degré supplémentaire. Derrière ces anomalies, un flot de sécheresse partout sur le globe, notamment en Afrique australe, et des typhons dévastateurs en Australie.
Merci Daniel pour ce petit rappel qui est grandement très utile. Voilà, drôle de dame, c'est fini pour aujourd'hui. Et l'année politique 2024 s'achève donc sur fond d'arrogance ou de mépris, comme on voudra, et sur fond de déni démocratique du camp macroniste et libéral. Mais si la température grimpe toujours plus, que la fortune des 500 personnes les plus riches a doublé sous la Macronie, la colère gronde aussi chez la majorité des Français, dont la crise de confiance envers le pouvoir macroniste, tout entier orienté vers les ultra-riches, n'est plus à démontrer. Alors, à quoi faut-il s'attendre en 2025 quand on sait qu'Emmanuel Macron entame l'année avec un record d'impopularité ? En effet, je voudrais rappeler, pour terminer cette émission, que ce samedi 4 janvier est paru un sondage réalisé pour le Figaro. 61% des Français souhaitent sa démission. Une hausse de 7 points en seulement 4 mois. Le président, déjà fragilisé par une dissolution marquée de l'Assemblée nationale et des nominations controversées à Matignon, semble vraiment avoir perdu la confiance d'une majorité de ses concitoyens.
Les plus bornés seront éborgnés dans des chaussées. Sur la chaussée, les mares de sang des innocents sur le pavé font le reflet d'une Marianne qui pleure ses petits des lacrymaux tous les samedis. Mais Jupiter est sourd aux plaintes juché là-haut sur son Olympe. N'a que mépris pour tous ces gens qui l'ont élu en le croyant. Être sincère, c'est pas son fort, lui préfère la chasse au trésor. Ça fait Goliath contre David face au monarque fascistoïde. Des citoyens qui se tapent dessus, c'est selon comme ils sont vêtus. Et sont tranquilles les gouvernants, oh, regardez un musulman. Ça fait des pirouettes oratoires dans les médias, c'est bon à voir. Entre nos langues et marketing, et à exemple du lobbying, la démocratie en plein rhume d'une maladie auto-immune. Y'a qu'un virus dans la matrice, révèle minus ceux qui se grandissent de tout avoir, de plus que nous, ceux qui ne sont rien, ceux qui ont le sou. Mais à bien y réfléchir, en fait, ils ont le pouvoir qu'on leur prête. Combien de morts, de vies détruites, ça détricote la République. Pour le profit, se faire vautour, capitalisme, mon amour. Sur des charognes, ton empire, ces jolies choses qu'on empile.